information fait la une aux États-Unis.
Meta is being sued by more than 30 U.S. states.
The company uses malicious practices to keep your kids on apps like Facebook and Instagram.
Meta, de nouveau dans la tourmente. Des États, démocrates comme républicains, viennent de lancer des poursuites contre le géant des réseaux sociaux, accusé de nuire à la santé mentale et physique de ses jeunes utilisateurs.
Nous nous sommes tous réunis pour tenir Meta responsable et protéger la sécurité et la santé de nos enfants. Nous ne reculerons pas devant ce combat très important.
Dans leur plainte, les procureurs affirment que Meta a utilisé la technologie pour attirer et piéger les adolescents. Une recherche de profit au détriment des dommages sur la santé, assènent les accusateurs. L'an dernier déjà, fait exceptionnel, le médecin-chef des États-Unis avait alerté sur l'extrême nocivité des réseaux sociaux, des accusations rejetées par le fondateur de Facebook.
Je ne suis pas d'accord avec ces allégations. Ce genre de critique supposerait une sorte de malveillance de notre part.
Pourtant, d'anciens salariés dénoncent les méthodes addictives utilisées. Cet ex-vice-président de Facebook est même intervenu il y a quelques années sur les plateaux télé pour prévenir du danger de l'addiction.
Nous avons créé des sortes de shoots de dopamine qui détruisent le fonctionnement de la société. Mes enfants ne sont pas autorisés à utiliser cette merde.
Alors quels sont les risques pour la santé des jeunes utilisateurs? Comment réguler l'usage des réseaux sociaux, principale source d'information aujourd'hui pour de nombreux ados?
Aujourd'hui, il y a un peu les États américains qui se sont réveillés depuis des révélations de 2021 qui ont eu lieu via Frances Haugen, donc qui était une lanceuse d'alerte qui travaillait pour Meta à l'époque et qui a fait fuiter énormément de documents qui montraient non seulement les côtés néfastes de Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux sur ses utilisateurs, mais aussi, et c'est ça qui est important, c'est que les documents montraient que Facebook était au courant. Et du coup, c'est là où le paradigme change un petit peu, c'est qu'on les accuse globalement d'avoir enfoui sous le tapis un petit peu les raisons qui faisaient que bon, leur application était quand même bien constituée pour nourrir les addictions et puis nourrir le fait qu'on ait envie d'y retourner tout le temps et touche évidemment tout le monde, les plus de 13 ans mais aussi les moins de 13 ans, même si ils ne sont pas censés y être normalement.
En fait, ce qu'on peut dire concernant les addictions, c'est que ça ne concerne pas l'ensemble des jeunes. J'ai lu 95%. 95% de jeunes, c'est énorme. Donc en réalité, par exemple, en France, on retrouve 3,8% d'addiction, d'usage problématique d'Internet parmi les jeunes. Et donc ce que l'on peut dire en fait concernant cela, c'est que chez ces jeunes, on retrouve des vulnérabilités, notamment psychologiques, socio-économiques, qui sont effectivement, qui peuvent mener à des usages problématiques d'Internet. Et il est possible, mais aujourd'hui la science n'est pas encore affirmative sur cette question, que ces usages problématiques soient en fait alimentés, accélérés par la présence de certains designs. Par exemple, l'idée d'utiliser des dark patterns, donc c'est des systèmes informatiques qui sont là...
En un mot, des dark patterns, c'est quoi ?
Les dark patterns, en fait, ce sont des systèmes informatiques qui sont là pour exploiter le fonctionnement humain et vous maintenir en fait sur les applications.
D'accord. De façon, en tout cas, d'attirer l'attention, parce que c'est le but de ces entreprises. Il faut le rappeler, elles sont pas forcément malveillantes. En effet, quand on n'imagine pas que, par exemple, Meta ait pour intention de nuire à la santé des adolescentes ou de nous rendre fous furieux, etc. Mais par contre, il y va de leur intérêt économique qu'on reste le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et ça, on peut le comprendre, parce que c'est ce qu'on appelle... C'est ça, c'est l'économie de l'attention. Il s'agit de, finalement, transmuer du temps attentionnel en capital économique par l'entremise de plages de publicité. Chacun peut le comprendre. Et pour ça, il y a deux grandes techniques, en fait. Soit, ce qu'a dit ma collègue, en effet, les dark patterns, c'est-à-dire la configuration de la façon dont l'information va vous venir ou comment fonctionne l'application. Et en effet, le doom scrolling, pardon, je vous explique tout de suite.
Vas-y.
C'est-à-dire, on connaît tout ça, c'est-à-dire le scroll infini.
Alors, donc ça, on fait circuler, on fait
Instagram,
passer,
TikTok, c'est tout à fait caractéristique. Mais aujourd'hui, vous voyez, ils s'y sont tous mis. Bah, parce qu'effectivement, on l'a tous testé. C'est dur de s'arrêter parce qu'on se dit, ah, peut-être que la suivante va être marrante. Donc, c'est tout à fait humain. Et quand même, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est, et là, ils ont une forme de culpabilité, et c'est ce qu'avait bien souligné Frances Haugen. Nous l'avions auditionné, justement, lors de la commission que vous avez mentionnée. Elle nous avait appris qu'en fait, par exemple, Facebook...
Frances Haugen, c'est l'ancien salarié du groupe.
Exactement. Merci de le préciser. C'est une donneuse d'alerte qui a travaillé chez Facebook.
Ancienne salariée.
Et qui, donc, soulignait le fait que Facebook donnait un avantage de visibilité aux posts qui étaient assortis de l'émoticône colère. 5 fois plus visible que les posts qui étaient seulement assortis de l'émoticône like. Et c'est intéressant parce que sur le Weibo chinois, Donc c'est l'équivalent de Twitter, si vous voulez. D'autres chercheurs ont montré que les messages les plus qui avaient le plus de viralité étaient les messages qui étaient aussi assortis de l'émoticône colère. Parce que la conflictualité, c'est quelque chose qui va faire de mille façons qu'on va rester plus longtemps parce qu'on a envie de débattre, on a envie. Il y a le syndrome du dernier mot. Et puis ça nous met en colère, voilà.
Il y a aussi
On parle beaucoup d'ados, hein, mais c'est vrai que vous et moi, j'ai l'impression qu'on aime aussi bien recevoir des petits cœurs de temps en temps sur nos publications. Donc c'est vrai que l'intérêt aujourd'hui, c'est un peu leur cheval de Troie, ces États, ces 42 États qui vont venir attaquer Meta aujourd'hui, ils peuvent tous se retrouver autour du fait qu'il faut protéger les enfants. Et donc on va beaucoup mettre l'accent sur les moins de 13 ans ou les enfants de entre 13 et 18 ans, et aussi parce qu'évidemment il y a les biais cognitifs, il y a le fait que leur cerveau est plus malléable, mais globalement les plateformes, depuis qu'elles ont été créées depuis 10-15 ans, ont été faites pour qu'on y retourne avec ces petits shoots de dopamine, avec ces petites notifications, avec cette fameuse pastille rouge, hein. La pastille rouge, elle est très importante, elle n'est pas verte, elle n'est pas grise. Il faut qu'on ait l'impression d'urgence en permanence, qu'on doit y retourner, et pas seulement et notamment via nos contacts aussi, via d'autres êtres humains.
Et d'où vous dites ?
L'addiction au numérique, moi je préfère utiliser le terme usage problématique du numérique ou usage problématique des réseaux sociaux, est un trouble comportemental qui n'induit pas en fait des modifications aussi majeures que peuvent induire en fait le tabac, et pas les mêmes conséquences aussi. On ne déclenche pas des cancers en fait liés à l'usage du numérique aujourd'hui. Ce qu'on voit en fait dans la littérature, c'est qu'il existe des vulnérabilités chez les individus, donc anxiété, dépression, impulsivité, et en fait ces dispositions vont amener à être plus à risque de développer des usages problématiques. Donc on retrouve des associations, mais on retrouve très peu d'études, voire quasiment pas d'études qui établissent un lien causal. C'est très difficile en fait à établir aujourd'hui.
Dans les études qu'on a pu voir, il y avait des personnes qui probablement étaient justement vulnérables à ces troubles, qui ont eu des troubles. Alors je ne sais pas si elles ont développé en conséquence, mais c'est vrai que sur les plateformes telles qu'on les connaît aujourd'hui et telles que les algorithmes ont été créés, ils ont été créés de manière assez bête, si je peux me permettre. C'est le fait que si vous allez liker, aimer une petite photo de chien, eh ben on va vous proposer beaucoup de chiens. Si vous allez aimer la page d'une influenceuse qui donne des conseils pour maigrir à 13-15 ans, forcément, l'algorithme va vous en proposer d'autres. Et donc, l'état de la recherche aujourd'hui n'est pas encore assez avancé pour vraiment montrer qu'il y a des conséquences vraiment directes. Néanmoins, on voit la manière dont... Moi, je sais que j'utilise TikTok, typiquement l'application chinoise, qui ne laisse pas beaucoup de liberté. Hein. Du coup, il suffit que j'aime un ou deux contenus, on va me proposer vraiment tout le temps les mêmes. Et il y a eu le Wall Street Journal qui a fait une étude sur 100 comptes. Ils ont créé 100 comptes. Et ils ont montré que c'était très, très facile de tomber dans des comptes liés à la dépression, typiquement, qui glamourisaient un petit peu ça, qui disaient que c'était normal, c'était même pas forcément encouragé, mais qu'en tout cas, c'est facile dans ce cas-là de tomber dans ce qu'on a un rabbit hole, pour continuer à parler en anglais autour de ce plateau, dans le fameux trou de lapin, Alice au pays des merveilles, on s'engraine et puis finalement on n'arrive plus à en sortir.
Oui, absolument, c'est-à-dire que ça nous concerne tous, c'est-à-dire que par exemple il y a des études qui montrent que lorsque nous n'avons pas de réseau, ça génère une forme d'angoisse qui peut être mesurée, mais ceux qui angoissent le plus, c'est quand même les jeunes, hein, c'est-à-dire les 76% de 24 ans. De même que nous nous informons tous, année après année, de plus en plus par les réseaux sociaux, toutes les classes d'âge confondues, mais ceux qui le font le plus, ce sont les plus jeunes. Et en plus, et c'est ça qui est éventuellement inquiétant, c'est qu'ils préfèrent un type d'information qui sont des informations vidéo. C'est-à-dire, on pense à Instagram, on pense à TikTok. Je vous rappelle quand même que NewsGuard a montré qu'il y avait 20% de fausses informations sur TikTok, ce qui est vraiment énorme en fait. On pourrait se dire, après tout, c'est 80% de vraies informations, mais c'est très au-delà de ce qu'on mesure en général. Alors, par ailleurs, non, je suis pas vraiment intéressé par la question de l'impact sur la santé. J'ai jamais écrit que les écrans avaient un impact sur la santé. Ce qu'on mesure, c'est qu'il y a en tout cas une corrélation de la baisse du temps de sommeil, et ça c'est mesuré y compris chez les plus petits, et l'apparition des écrans. Encore faudrait-il, il y a plein de raisons hein, sur la baisse du temps de sommeil, elle date pas d'aujourd'hui, il y a le travail de nuit, etc. Mais chez les petits-enfants, on peut pas soupçonner le travail de nuit, et on sait qu'il existe des dormeurs sentinelles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui dorment avec leur téléphone portable et qui ont peur de rater quelque chose. La télévision qui vous concernait à titre personnel. C'est-à-dire que l'interpellation que nous fait les réseaux sociaux, c'est qu'il pourrait se produire un événement. Et on pense notamment aux plus jeunes, c'est-à-dire tout simplement des coalitions de popularité ou du harcèlement, puisqu'il était mentionné. Il peut se passer à tout moment quelque chose. Et peut-être qu'un des impacts qui est les plus forts, parce qu'il y avait quand même des papiers sur l'anorexie, par exemple, qui était, où il était soupçonné qu'Instagram favorisait pour certaines jeunes filles une tendance à l'anorexie. Moi, en tant que sociologue, en tout cas, ce que je vois, c'est que les réseaux sociaux, ils aiguisent quelque chose qui est aussi vieux que l'humanité, c'est-à-dire le calibrage social, le fait de se comparer les uns aux autres.
Alors, à mon sens, en fait, le fait de cibler Meta quand on est aux États-Unis, ça fait sens, puisque c'est une entreprise américaine. Après, pourquoi s'attaquer à Meta, en fait, aux États-Unis ? À mon sens, il faut distinguer un petit peu ce qui est de l'ordre du fantasme, en fait, par rapport à la vie numérique des adolescents, de ce qui est, en fait, la réalité. Aujourd'hui, comme on le voit à travers, en fait, votre reportage, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, ça permet, en fait, de créer des liens de socialisation. Même aujourd'hui, déjà en 2010, mais même aujourd'hui, en fait, c'est un levier de socialisation pour les jeunes. Ça permet de se créer une identité numérique, ça permet aussi de s'affirmer, en fait, de prendre conscience de soi, de s'ancrer dans l'instant. Donc pour eux, finalement, en fait, ça a une importance. Après, ce qu'il faut distinguer, c'est effectivement quel type de design chez des personnes qui sont en situation de fragilité va poser problème. Et là, en fait, la plainte qui est proposée par Meta peut être intéressante pour commencer à adresser ce problème. Par contre, j'ai quand même des doutes, on verra comment c'est instruit, qu'un jour ça conduise réellement à des condamnations fermes, parce que nous, au niveau scientifique, on a déjà du mal à comprendre quel type de design à l'intérieur des plateformes va réellement poser problème et avoir des conséquences négatives en termes de santé mentale.
Alors, c'est... il faut des régulations, mais...
Il faut réguler davantage, en tout cas.
En tout cas, à mon avis, dans ce cas de figure, c'est plutôt aux parents. Enfin, je veux dire, quand l'État commence à se substituer à l'autorité parentale, on s'éloigne un peu de la démocratie en général. Donc, à mon avis, il faut raison garder, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question de la modération. Mais c'est, en Europe, on se l'est posé, cette question. Il y a le Digital Services Act qui peut punir à hauteur de 6% du chiffre d'affaires mondial une entreprise si elle ne respecte pas un certain nombre de choses et en particulier des efforts pour retirer des contenus considérés comme illicites. Et donc ils doivent rendre chaque année un rapport. Je ne sais pas s'ils le font sérieusement, ça faut le demander au niveau européen. Mais je crois que la meilleure des régulations possibles, c'est la régulation individuelle, c'est-à-dire doter chaque individu de compétences, notamment sur les fausses informations qui m'intéressent en fait plus qu'à la limite que les questions de santé. Et en particulier parce que si la science montre quelque chose, ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, qui s'intéressent beaucoup à ce point, c'est que le fait de diffuser de la fausse information, de la partager et de la croire, elle dépend de plein de variables. Il y a des variables politiques, de niveau d'études, etc. Mais ce qui prédit le plus, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse, la baisse de vigilance intellectuelle, en quelque sorte.
Le DSA dont vous avez parlé, c'est qu'on peut peut-être aussi agir au niveau des entreprises et les forcer à modifier...
Le DSA, donc, très précisément.
Le Digital Service Act, qui est passé en août 2023, et qui permet de donner des pouvoirs à l'Europe pour pouvoir aller demander des comptes aux grandes plateformes. Par exemple, c'est tout bête, mais si on modifiait les algorithmes aujourd'hui pour qu'ils aillent dans un sens chronologique et non pas dans un sens... Aujourd'hui, quand vous ouvrez une application, on va vous proposer les contenus qui sont bien pour vous. Mais en fait, c'est les contenus qui ont été le plus likés, le plus aimés ou alors qui ont eu le plus de réactions négatives. Aujourd'hui, grâce au DSA, on a réussi à demander à ce qu'il y ait une option de fil chronologique obligatoire. Et en fait, pour être un peu pas vulgaire, mais ça rend les réseaux sociaux un peu plus ennuyeux. Ça donne juste moins envie d'y aller, en fait. Et en forçant un petit peu ces modifications à la marge au sein des entreprises, en leur disant « vos algorithmes, ils doivent être modifiés », là, on va aussi pouvoir en fait, abaisser cette charge.
Alors, la question, en fait, moi je rejoins un peu mes collègues sur la question de la régulation, oui. L'éducation aux médias, à mon sens, oui. Et cette éducation aux médias, clairement, il ne faut pas la réduire aux enfants. Et il ne faut pas non plus la faire porter uniquement sur les parents. Il faut qu'il y ait des vraies formations à l'école consistantes, en fait, sur cet aspect-là. Aujourd'hui, on lâche les jeunes sur les réseaux sociaux et globalement sur Internet sans réelle préparation et formation. Aujourd'hui, je ne pense pas que quand vous laissez vos enfants aller se promener dans la rue, vous ne leur expliquez pas qu'il faut attendre que le bonhomme soit vert pour pouvoir traverser. À mon avis, c'est aussi quelque chose qui est systémique, c'est-à-dire les parents doivent effectivement préparer leurs enfants à ces questions-là et échanger sur ces aspects-là. Les écoles et l'éducation nationale, ce qu'elles tentent de faire, doivent se saisir en fait de cette question et faire de vraies actions. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit que le cyberharcèlement, c'est sur Internet, donc ça ne concerne pas les écoles. Si, en fait, généralement, ça concerne les écoles, puisqu'un prédicteur en fait, du cyberharcèlement, c'est le harcèlement scolaire.